Bonjour à tous et bonjour à toutes, merci d'être avec nous sur Radio Judaïka Strasbourg. Évidemment, on vous renouvelle tous les vœux pour cette nouvelle année. Et vous le savez, dans quelques heures, ce sera la fête de Kippour. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous le rabbin Reuven Koryat, rabbin à Strasbourg. Vous êtes également le rabbin principalement de la synagogue de Rambam. Bonjour monsieur le rabbin.
Bonjour Jean, bonjour chers auditeurs et chères auditrices.
Shana Tova, bonne année.
Shana Tova, Umvorechet, Shana Tova, Umetuka.
Voilà, alors la fête de Kippour, ce sera mardi soir. D'ailleurs, je dis fête de Kippour, c'est bien de dire fête de Kippour. C'est vraiment une fête ou...
Oui, tout à fait. C'est marqué dans la Mishnah que si on devait cocher le plus beau Yom Tov, la plus belle fête dans le calendrier juif, on devrait tous cocher spontanément le jour de Kippour.
Donc c'est une fête, c'est un chagim.
C'est un moment, c'est un Yom Tov. La Mishnah dit que c'est un jour de Yom Tov et c'est le plus beau Yom Tov du calendrier juif.
Pourtant, il n'y a pas de repas, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de repas, mais je veux dire, il y a un bénéfice tellement exceptionnel ce jour-là où HaKadosh Baruch Hu pardonne l'ensemble des fautes du peuple juif, ce qui est la raison d'être de tous les rendez-vous de Yom Tov. Mais là, on a un avantage exceptionnel, si bien que ça en fait le plus beau des Yom Tov du calendrier.
On dit c'est le Shabbat des Shabbats, hein, on dit aussi...
C'est aussi le Shabbat des Shabbats, et ça aussi, la sainteté d'un Shabbat de Shabbat, et le bénéfice, comme nous l'avons dit, dans lequel HaKadosh Baruch Hu efface l'ensemble des fautes du peuple juif.
Alors, on a l'habitude, quand on parle de Kippour, de dire le jour du grand pardon. Kippour, ça vient de Mechaper, je suppose.
Voilà, l'étymologie du mot Kippour, c'est le mot Kapara.
Ah.
Kapara, c'est le pardon, et c'est le grand pardon, parce que c'est effectivement ce moment où Hachem, Dieu, efface, annule, enlève toutes les fautes du peuple juif.
Alors, dans toutes les fêtes juives, que ce soit Rosh Hashanah, ou soit Sukkot ou d'autres fêtes, il y a un inyan, il y a un principe. Par exemple, pour Rosh Hashanah, dernièrement, c'était le principe d'écouter le shofar. À Kippour, il y a une mitzvah qu'il faut faire absolument.
Alors, la mitzvah essentielle à réaliser le jour de Kippour, qui n'est pas des moindres, c'est celle de la teshuva. Pour que HaKadosh Baruch Hu efface l'ensemble des fautes du peuple juif, il nous convient à nous de faire un petit pas vers lui. Ce petit pas s'appelle la teshuva.
Mais c'est pas matériel, c'est pas...
C'est pas matériel. Nous, le jour de Kippour, nous n'avons rien de matériel. Nous ne mangeons pas, nous ne sonnons pas de shofar, nous n'avons pas de mitzvah particulière à réaliser avec un objet. C'est nous-mêmes qui nous tenons en face à face avec HaKadosh Baruch Hu, lequel on fait un pas vers lui. On va améliorer quelque chose dans notre manière
d'être. Le jour même ou ça englobe toute l'année?
Le jour même, on exprime ça de façon importante, de façon décidée, déterminée. Et à partir de là, on essaye de suivre cette voie et cet élan toute l'année.
Alors, à Kippour, on jeûne, on prie. C'est quoi le mieux? C'est les deux ou c'est au moins des deux?
Alors évidemment, le jour de Kippour, le jeûne de Kippour, c'est le seul jeûne, Jean, qui est mis dans la Torah. Le seul moment où la Torah nous demande de pratiquer un jeûne, c'est uniquement
c'est
le jeûne de
jeûne,
Kippour.
C'est une contrition dans le Sefer Torah. On dit qu'il faut être contrit ce jour-là.
Alors, Te'anu et nafshotechem, cela inclut à la fois le fait de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas se laver, de ne pas se parfumer, de ne pas porter des chaussures en cuir.
Ah, le terme englobe toutes les interdictions.
Le terme englobe toutes ces interdictions, tout comme ne pas avoir d'intimité avec son épouse pendant ce jour de Kippour.
D'accord. Alors, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que vous l'avez dit, on va se retrouver face à Dieu. Il y a une grande partie de la journée où on va prier. Qu'est-ce qu'on va demander à Dieu? Est-ce qu'on va prier pour nous, personnellement? Est-ce qu'on va prier pour la communauté? Est-ce que ça va être uniquement des pardons ou il y a autre chose dans la prière de Kippour?
Alors, les prières de Kippour elles-mêmes sont formulées sous la forme plurielle. C'est-à-dire que non seulement nous prions pour nous-mêmes, qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne nos fautes, nous prions aussi qu'il pardonne les fautes de l'ensemble du peuple juif, de notre communauté, de notre synagogue. Et c'est ce que nous demandons intensément pendant ce jour-là, à travers aussi le fait de se repentir, puisque nous faisons plusieurs fois le vidouille, n'est-ce pas ? Nous reconnaissons nos fautes, nous admettons que nous avons failli et nous avons en projet, c'est ce que nous exprimons ce jour-là, d'améliorer notre manière d'être et de ne plus faillir comme nous l'avons fait l'année passée.
D'accord. Concernant le Kippour, on en parle un peu avant. Avant Kippour, il y a un repas et après Kippour, il y a aussi un repas. Et ces deux repas-là sont considérés comme des seudat mitzvah. Comment on peut comprendre, par exemple, qu'un repas d'avant-jeûne peut être considéré comme une mitzvah ou comme quelque chose de très important ?
Alors, c'est ce qu'on appelle la seuda mafseket. La seuda mafseket, cela veut dire que c'est la seuda qui va, au terme de ce repas, annoncer l'ouverture du jeûne. Donc, nous avons un délai à respecter, l'horaire à respecter jusque le coucher du soleil, de pouvoir consommer. À partir de cela, commence le jeûne. Ça, c'est le repas que nous faisons avant. Celui que nous faisons après, évidemment, c'est un repas pour nous revigorer à la fin de Kippour, soulagé, heureux, content d'avoir été pardonné de nos fautes. On célèbre aussi le repas d'après Kippour avec beaucoup de joie aussi parce que effectivement on a été exaucé dans nos requêtes, dans nos demandes.
C'est ça que je voulais vous demander. Comment je sais si à la fin de Kippour, j'étais exaucé ou pas ?
Alors, c'est ce sentiment quand on s'est investi dans la prière, quand on a prié, quand on s'est senti porté par tout ce calme, par tous les fidèles qui d'une seule voix ont demandé que HaKadosh Baruch Hu leur pardonne leurs fautes. Quand vous sortez de la synagogue, vous êtes bien, vous êtes rassuré.
Si je ne suis pas bien à la sortie de la synagogue, je n'ai pas fait Kippour.
Non, ça veut dire, vous ne pouvez pas ne pas être bien, Jean. Je vous dis, si vous participez à la prière comme il se doit, vous sortez. Et c'est justement, vous savez, la tradition veut, on ne l'entend pas, mais la tradition veut qu'il y a une bat kol, une voix qui te dit « L'ech echol besimcha et lachmecha ». Voilà, quitte la synagogue maintenant, sois heureux, va manger, rassurer ton repas, qui ratza Hashem, parce que HaKadosh Baruch Hu t'a exaucé et t'a pardonné.
Alors, il y a dans cette fête de Kippour, on va pas en parler parce que sinon on va dépasser le temps qui nous est imparti. Il y a deux prières en plus, c'est Kol Nidre au début et la fin, il y a Neila. Donc, c'est deux prières en plus qu'on n'a pas durant les autres fêtes. Mais il y a surtout une grande partie de la journée qui est occupée, entre guillemets, par le moussaf. C'est un moussaf très long, il y a une très longue répétition. C'est long, il faut rester debout devant les rats, etc. Pourquoi cette prière a une si grande importance ?
Alors, la prière du moussaf, c'est vrai qu'elle est centrale parmi les prières du jour de Kippour. Il faut savoir qu'à l'époque du temple, à l'époque du Beth Amikdash, le service était assuré par le Kohen Gadol. Il y avait tout un service. Le Kohen Gadol, depuis une semaine avant, était séparé de sa maison. Il était préparé à ce grand jour pendant une semaine. Et la veille même de Kippour, il ne dormait pas. Il était là pour que, dès l'aube, il commence son service de tout ce qu'il avait à faire comme sacrifice tout au long de la journée, les différentes manière de se laver les pieds et les mains, de se tremper au mikvé, tout cela est relaté pendant le moussaf. C'est-à-dire, on appelle ça, Jean, seder à avoda. C'était l'ordre de tout le service que réalisait le Kohen
Gadol.
Oui, mais
aujourd'hui, on n'a ni Kohen Gadol, ni Beit HaMikdash.
Exactement.
On
ne
sait pas.
Mais nous, aujourd'hui, on dit, voilà ce qui se passait lorsque le Beit HaMikdash était construit. Voilà comment le Kohen, pas à pas, depuis le moment ou entre Yom Kippour, voilà ce qu'il faisait, voilà ce qu'il disait, voilà comment il passait la nuit, et comment dès l'aube, on lui annonçait que l'aube s'était levée, qu'il offrait le korban du matin et tous les korbanotes qui se suivaient, parce que, en rappelant tout ça, on s'inscrit dans ce service qui était réalisé, grâce auquel le peuple juif obtenait le pardon. Aujourd'hui, nous n'avons pas de korbanot, nous n'avons pas de Beit HaMikdash, ce sont nos prières qui remplacent ces sacrifices. C'est la raison pour laquelle Nous rappelons l'ensemble du service que réalisait le Kohen Gadol, mais aujourd'hui, où il n'y a plus ce service, on compte sur nos prières. Ce sont elles qui vont nous procurer ce fameux pardon.
Alors, Monsieur le Rabbin Koryat, il y a quelques années, j'avais un rabbin qui me disait que la prière de Moussaf était celle qui était peut-être la plus importante de tous les offices. Vous dites la même chose ?
Alors moi, je dirais qu'elle est très importante, mais je dirais que la Ne'ila. Ah. La Ne'ila, c'est la cinquième prière que nous faisons. Vous savez, Jean, nous faisons la prière du soir, une, le matin, deux, Moussaf 3, Mincha 4, Ne'ila 5.
Avant Arvit.
Ce jour-là, avant Arvit, nous faisons cette... C'est le moment... Alors regardez, l'étymologie du mot Ne'ila, ça veut dire c'est la fermeture. Noël, le verbe l'inol, c'est fermé. Le jour de Kippour, les portes des cieux sont grandes ouvertes à tous ceux qui veulent faire un pas pour se rapprocher d'Hachem, pour regretter leurs fautes, pour améliorer leur manière d'être.
Ça veut dire quoi, un pas envers Hachem ? Je comprends pas.
Un pas, ça veut dire, Jean, juste réaliser que nous n'avons peut-être pas été complètement à la hauteur l'année passée et que nous voulons améliorer, ne serait-ce qu'une toute petite chose en nous. Améliorer une toute petite chose parce que c'est la volonté de Dieu, c'est faire une place à Dieu. C'est ça, faire un pas vers lui. Et ça, c'est suffisant.
Je voulais vous demander, à Kippour, on dit que le peuple juif est soumis à Dieu. C'est une soumission. On dit, OK, tu es notre...
C'est à Rosh Hashanah. Oui, à Rosh Hashanah, on proclame la royauté divine. À Kippour, non.
Si on est soumis, on n'a pas besoin encore, en plus d'être soumis en plus, il n'y a pas de soumission.
C'est juste. Être proclamé Dieu est une chose importante. Mais tu sais, Jean, après une année... pendant laquelle nous avons certainement failli dans plusieurs choses, on porte ce lourd fardeau de nos anciennes fautes. Ah. À Yom Kippour, Hachem, il dit, regardez, je vais vous soulager. Comme vous avez proclamé la royauté divine, vous voulez vous constituer un fidèle serviteur de Dieu, je vais vous aider. Comment je vais vous aider ? Je vais vous débarrasser de tout ce qui a pu vous alourdir l'année passée et vous purifier. C'est ce que nous disons maintes et maintes fois. Jean, ki bayom azé, car ce jour-là, Yéchaper Alechem, je vais vous pardonner les Taher Etrem. Pas seulement que je vous pardonnerai vos fautes, mais je vais vous sanctifier. Et à ce moment-là, vous serez plus léger et plus prompt à pouvoir, la nouvelle année, servir Dieu encore mieux.
Alors, il y a aussi quelque chose de très intéressant à Kippour, aussi bien à Rambam qu'ailleurs, d'ailleurs, c'est la liturgie. Est-ce que cette liturgie est essentielle pour la fête de Kippour ou on peut... faire des petits impasses en se disant on va la chanter autrement, ou c'est important d'avoir une liturgie qui est régulière?
Voilà. Alors, vous savez, Jean, la liturgie, elle a son importance dans le sens où elle éveille la sensibilité, elle éveille la kavana. C'est grâce à ces airs spécifiques de Rosh Hashanah, de Kippour, qui sont des airs qui interpellent, qui nous amènent à nous introspecter. Ce sont des airs sur lesquels on ne peut pas passer. Après, chaque synagogue a sa liturgie. On peut toujours innover quelque chose, moderniser quelque chose. Tu le sais, avec aujourd'hui, tous les chants nouveaux, etc. On adapte aussi. Mais l'essentiel de la liturgie, c'est de provoquer en soi cette sensibilité qui nous amène à nous introspecter et à vouloir nous élever, nous rapprocher de Dieu.
Je le disais en début d'interview, vous êtes le rabbin de Rambam. Donc, plutôt séfarade.
Tout à fait.
Il y a une différence entre le Kippour séfarade et le Kippour ashkenaz. Il y a des choses qui changent.
Oui, alors, nous, dans les slichot que nous faisons, que ce soit depuis le début du mois d'Eloul, pendant Yom Kippour, les termes sont extrêmement directs. C'est-à-dire que c'est compréhensible par tout un chacun. C'est des choses qui touchent directement la personne, qui s'adressent directement à la personne. Dans le texte ashkénaze, c'est beaucoup plus élaboré, c'est beaucoup plus poétique, c'est beaucoup plus recherché. Et il faut vraiment, vraiment approfondir pour bien comprendre le sens de ces fameuses slichot et de ces fameux textes qui sont extrêmement rehaussés dans leur expression. Alors que chez nous, chez les séfarades, les textes sont simples, sont directs, interpellent la personne tout de suite, lui disent « Ben Adam, monsieur, pourquoi la malechanir dame, pourquoi tu dors, pourquoi tu es dans cette léthargie, koum kera, lève-toi et implore à Kadosh Baruch Hu. » Alors que dans le contexte ashkénaze, c'est très poétique, c'est extrêmement élaboré comme expression. Il faut vraiment se pencher très, très profondément pour vraiment déceler et comprendre le sens des choses.
À Kippour, on le sait, on est dans un état un peu différent. Et pourtant, malgré ce jour très important, il y a beaucoup de chants joyeux avec un tempo assez intéressant. On ne va pas tous les citer. Pourquoi on chante ça joyeusement? On devrait plutôt chanter ça dans des chansons plus mélodieuses, plus tristes. Plus...
Tout à fait. Pour nous, notre joie, Jean, on l'exprime aussi dans cette volonté de se rapprocher de Dieu, de reconnaître nos fautes, de vouloir s'améliorer. Il y a un tempo, il faut que voilà, Adonai Selichot, oui, toi tu es celui qui pardonne le peuple juif. Voilà, Khatanou Lefanecha, on a fauté contre toi, on ne se cache pas d'avouer que nous avons effectivement failli.
Le dire, c'est bien, mais le chanter avec joie.
Il faut que ça entraîne l'ensemble des fidèles et que d'une seule voix, ils puissent comme ça reconnaître les choses et vouloir s'améliorer. Il n'y a pas, on va dire, de contre-indication quelconque à entraîner l'ensemble des fidèles à vouloir s'inscrire dans cet état d'esprit de Kippour.
Dire qu'il y a un vrai rôle du Shaliach Tzibour, la personne qui prie.
Ah oui, ça, de toute façon, que ce soit chez les Ashkenazim ou les Sepharadim, le Chazan, il a un rôle central. Hein. C'est lui qui doit diriger, mener et encourager tous les fidèles à tenir une prière, Jean, qui commence la veille et qui finit le lendemain soir.
Alors, il y a une coutume que certains ont, c'est de mettre un caftan. Certains disent que c'est... une gondoura ou d'autres parlent de linceul qu'on met. Qu'est-ce que ça apporte d'être habillé tout en blanc? Est-ce que si je mets une chemise blanche,
parfait, c'est parfait, hein, c'est juste. c'est l'esprit de la pureté. Comme le jour de Kippour, comme nous l'avons évoqué, c'est le jour où Dieu pardonne les fautes du peuple juif, qu'il purifie le peuple juif. La couleur blanche est une couleur qui évoque la pureté. Voilà, ça c'est de manière générale. Dans le minhag ashkenaz, au-delà de la couleur, ils ont, comme vous l'avez évoqué, cette coutume de mettre ce qu'on appelle un kittel. C'est ce linceul blanc pour leur rappeler que voilà, l'homme il a une finitude, qu'il ne doit pas se laisser aller à ce que sont les apparitions extérieures du monde, ce qui peut le séduire à l'extérieur et le faire dériver de ce qu'est le sens essentiel de la vie. Ça ramène l'homme à sa condition d'être mortel, qui doit donner un jour des comptes. Et donc, ça le replonge de façon systématique dans l'importance de ce jour. Ça, c'est ce minhag ashkenaz. Mais porter un vêtement blanc, c'est tout à fait adéquat avec le jour du Kippour, puisque ça évoque la pureté.
Il y a quelque chose qui m'étonne dans les liturgies de Rosh Hashanah et de Kippour, c'est qu'il n'y a pas le Hallel.
Voilà, évidemment.
Pourquoi, évidemment?
Évidemment, la Gemara pose votre question, Jean, elle dit, mais comment se fait-il qu'en ces moments-là importants, on ne dit pas le Hallel? Le Hallel, c'est un chant du cœur spontané. C'est ça, le Hallel.
Et Kippour, ce n'est pas des prières spontanées?
C'est des moments solennels. Et la Gemara va nous dire, quand on a des enjeux aussi importants qu'être inscrit dans le livre de la vie, ce n'est pas le moment de s'adonner à des louanges spontanées, à des chants spontanés vis-à-vis de Dieu. On a la gravité, la solennité du moment qui doit s'exprimer à travers des prières telles qu'elles sont celles de Kippour et de Rosh Hashanah.
C'est quoi la différence? C'est-à-dire quand on fait des louanges à Dieu au Hallel,
à Sukkot par exemple,
ça marche pas pour le jour où on doit se rapprocher de Dieu.
C'est pas seulement qu'on se rapproche de Dieu, on joue, on va dire, à une échéance qui est celle de s'inscrire, de mériter d'être inscrit dans le livre de la vie. Quand on est à Sukkot et qu'on a passé ces moments solennels, qu'on est confiant que Dieu nous a inscrit dans le livre de la vie, à ce moment-là, on est joyeux intérieurement et on dit ces fameuses louanges à travers le Hallel. Mais quand on a encore cette crainte en nous de savoir est-ce qu'on va mériter cette année, effectivement, d'être inscrit dans le livre de la vie, que Dieu nous accordera tout ce que nous avons besoin pour mener à bien notre nouvelle année, évidemment qu'on a cette appréhension un petit peu qui nous prend, qui nous étreint, et on ne peut pas à ce moment-là dire le Hallel.
Vous l'avez dit, à la Neila, les portes du ciel sont ouvertes.
Elles sont en train de se fermer parce que c'est le dernier moment de Kippour, et c'est là où il nous faut dans un ultime effort, voyez Jean.
Oui, mais la question que je vous posais, c'est que quand les portes sont fermées, il n'y a plus de retour.
Il y, y a toujours un retour, mais à Kippour, c'est facile. À Kippour, on a...
C'est-à-dire, voilà. Si je fais teshuva trois semaines après Kippour...
Ah oui, tous les jours, on peut faire teshuva, toute l'année, on peut faire teshuva.
Mais ça marche mieux.
Mais c'est plus facile à Kippour. C'est accepté avec beaucoup plus de bienveillance par Dieu, parce que c'est le jour où Dieu, à l'origine, rappelle-toi Jean, a pardonné la faute du veau d'or au peuple juif. Nous, on tient cette date de Kippour parce que ça a toujours été un moment de pardon. Quand Moshe Rabbeinu est descendu avec le deuxième table de la loi, ce qui a attesté que Dieu a pardonné la faute du veau d'or au peuple juif, c'était le jour de Kippour.
Pourquoi il y a une sorte d'appréhension dans la communauté? Les gens, quand ils viennent à Kippour, on dirait qu'ils vont passer la journée la plus horrible de leur journée, alors que ça devrait être la plus joyeuse.
C'est une journée exceptionnelle. Il ne faudrait pas la prendre comme si c'était une journée... Mais comme dit Jean, l'enjeu est tellement important. On veut tous mériter d'être inscrits dans les livres de la vie. On veut tous mériter d'avoir une année pleine de santé, pleine de joie, pleine de satisfaction, pleine de bonheur. Tout ça doit être mérité. Et il faut, c'est à nous de jouer, et c'est pourquoi on essaye de s'investir au mieux.
Je ne voudrais pas oublier un mot avec vous, monsieur le rabbin, sur certaines personnes qui, pour des raisons de santé, pour des raisons de, je ne sais pas, d'autres raisons, seront compliquées pour faire Kippour. Est-ce que si je suis obligé de prendre un médicament tous les jours, au risque d'avoir des complications, je demande l'avis d'un rabbin?
Évidemment, Jean. La Torah est une Torah de vie. On n'impose pas des choses qui peuvent porter atteinte à la santé. Chaque personne qui a un souci de santé doit contacter son rabbin, qui lui donnera exactement les conditions à respecter afin de pouvoir continuer à prendre ses médicaments, de quelle manière, etc. Mais tout a une solution.
Dans la halakha, mais quand pensé, par exemple on mange à Kippour pour une raison ou une autre, ça considère que Kippour n'est pas accepté ou
non,
ça a un rapport ou pas de rapport du tout?
Non, tu sais Jean que dans la halakha, manger c'est une quantité
minimum
dans un certain laps de temps.
D'accord.
Voilà. Alors si des personnes sont malades, ils ne peuvent pas du tout jeûner ni ne peuvent pas s'empêcher de boire pour des raisons de santé importantes. Alors on va leur indiquer de manger une quantité moindre.
Okay,
un certain laps de temps. Par exemple, on va leur dire, vous allez manger moins que 25 grammes, d'accord, toutes les demi-heures. C'est très bien. Ça, dans la Torah, ça ne s'appelle pas qu'on a mangé.
Ah bon.
On n'a pas transgressé l'interdit. Ça n'est pas autorisé pour tout le monde. Jean, je vous vois déjà venir. Non, ce n'est pas autorisé pour tout le monde. Mais pour des personnes qui ont des problèmes de santé importants, ils doivent consulter leur rabbin qui leur donnera toutes les manières de faire pour pouvoir continuer à prendre leurs médicaments.
Mais ces gens-là, ils font Kippour, c'est comme s'ils faisaient
Kippour.
Bien sûr,
mais évidemment.
Ce
n'est pas parce qu'ils sont contraints par des problèmes de santé, qui ont des solutions, puisque la halakha a déjà pensé à tout ça, tu penses bien, qu'ils ne font pas Kippour. Ces gens-là feront Kippour, ils seront agréés par Dieu, ils auront fait leur teshuva, et ça ne sera pas considéré comme une faute d'avoir consommé s'ils respectent les quantités et les délais de temps que leur rabbin leur suggérera.
On va sonner le chauffard mercredi soir, si Dieu veut. Après, il y a beaucoup de gens qui quittent la choule avant le chauffard. Il faut signaler qu'après, il y a une prière, il y a Arvit.
Eh oui, une fois qu'on a quand même fait la teshuva et qu'on s'est disposé à mieux servir, il faut quand même essayer de faire un effort pour faire l'office. Quoi.
D'accord. Donc, et après, il y a une avdala aussi.
Voilà, une avdala qui fera la
général,
maison.
En communauté.
En communauté, ou chacun à la maison. Il suffit juste de faire Boré Peri à Geffen et à Mavdil Ben Kodesh Lechol pour qu'on fasse sortir la fête de Kippour.
Qu'est-ce que vous avez à dire avant Kippour aux auditeurs de la radio, aux gens qui nous écoutent, à la communauté qui...
Voilà, moi je souhaiterais dire à l'ensemble des gens de la communauté, Kippour est un moment merveilleux. C'est un moment de grande bienveillance. C'est le plus beau Yom Tov, comme j'ai dit au début de mes propos. Il faut profiter de ce moment. Ce que je propose, c'est que on soit là à aborder ce jour avec un autre état d'esprit. Ce n'est pas du tout un moment qu'il faut prendre comme quelque chose de triste et tout. Pas du tout. C'est une opportunité unique que le peuple juif possède. Un seul jour dans l'année où Dieu ouvre toutes les portes, sonde tous les cœurs. Il suffit d'un petit, tout petit pas vers Dieu pour qu'on puisse bénéficier de l'ensemble de ses rachamim, de l'ensemble de ses bontés pour toute l'année à venir. C'est ce que je souhaite à l'ensemble des auditeurs, des auditrices, d'aborder ce jour avec sérénité, avec joie, avec implication dans la prière, avec cette volonté de vouloir faire toujours un petit pas de plus que l'année passée. Et à ce moment-là, on méritera le meilleur pour nous tous. Très bon jeûne de Yom Kippour et très belle journée de Yom Kippour.
Merci Yom Kippour. Donc, merci au rabbin Reuven Kariat, le rabbin de la Sagrada Rambam à Strasbourg.
Merci à toi Jean, merci à tous. Ya mim